Chapitre 260. Les amis de M. Fouquet. Le roi étant retourné à Paris et avec lui d'Artagnan, qui, en 24 heures, ayant pris avec le plus grand soin toutes les informations à Belle-Île, ne savait rien du secret que gardait si bien le loup rocher de Locmaria, tombe héroïque de Porthos. Le capitaine des mousquetaires savait seulement ce que ces deux hommes vaillants, ce que ses deux amis, dont il avait si noblement pris la défense et essayé de sauver la vie, aidés de trois fidèles bretons, avaient accompli contre une armée entière. Il avait pu voir, lancés dans la lande voisine, les débris humains qui avaient taché de sang les silex épars dans les bruyères. Il savait aussi qu'un canot avait été aperçu bien loin en mer et que, pareil à un oiseau de proie, un vaisseau royal avait poursuivi, rejoint et dévoré ce pauvre petit oiseau qui fuyait à tire-d'aile. Mais là s'arrêtaient les certitudes de D'Artagnan. Le champ des conjectures s'ouvrait à cette limite. Maintenant, que fallait-il penser? Le vaisseau n'était pas revenu. Il est vrai qu'un coup de vent régnait depuis 3 jours. Mais la corvette était à la fois bonne voilière et solide dans ses membrures. Elle ne craignait guère les coups de vent, et celle qui portait Aramis eût dû, selon l'estime de D'Artagnan, être revenue à Brest ou rentrer à l'embouchure de la Loire. Telles étaient les nouvelles ambiguës, mais à peu près rassurantes pour lui personnellement, que D'Artagnan rapportait à Louis XIV lorsque le roi, suivi de toute sa cour, revint à Paris. Louis, content de son succès, Louis, plus doux et plus affable depuis qu'il se sentait plus puissant, n'avait pas cessé un seul instant de chevaucher à la portière de Mademoiselle de la Vallière. Tout le monde s'était empressé de distraire les deux reines pour leur faire oublier cet abandon du fils et de l'époux. Tout respirait l'avenir. Le passé n'était plus rien pour personne. Seulement, ce passé venait comme une plaie douloureuse et saignante au cœur de quelques âmes tendres et dévouées. Aussi, le roi ne fut pas plus tôt installé chez lui qu'il en reçut une preuve touchante. Louis XIV venait de se lever et de prendre son premier repas quand son capitaine des mousquetaires se présenta devant lui. D'Artagnan était un peu pâle et semblait gêné. Le roi s'aperçut au premier coup d'œil de l'altération de ce visage ordinairement si égal. « Qu'avez-vous donc, D'Artagnan ? » dit-il. « Sire, il m'est arrivé un grand malheur. »«
Mon Dieu, quoi donc ? »
« Sire, j'ai perdu un de mes amis, M. du Vallon, à l'affaire de Belle-Île. » Et, en disant ces mots, D'Artagnan attachait son œil de faucon sur Louis XIV pour deviner en lui le premier sentiment qui se ferait jour.
« Je le savais, » répliqua le roi.
« Vous le saviez et vous ne me l'avez pas dit ? » s'écria le mousquetaire.
« À quoi bon ? Votre douleur, mon ami, est si respectable. »
J'ai dû, moi, la ménager. Vous instruire de ce malheur qui vous frappait, D'Artagnan, c'était en triompher à vos yeux. Oui, je savais que M. du Vallon s'était enterré sous les rochers de Locmaria. Je savais que M. d'Herblay m'a pris un vaisseau avec son équipage pour se faire conduire à Bayonne. Mais j'ai voulu que vous appreniez vous-même ces événements d'une manière directe, afin que vous fussiez convaincu que mes amis sont pour moi respectables et sacrés, que toujours en moi l'homme s'immolera aux hommes, puisque le roi est si souvent forcé de sacrifier les hommes à sa majesté, à sa puissance.
Mais, sire, comment savez-vous ?
Comment savez-vous vous-même, D'Artagnan ?
Par cette lettre, sire, que m'écrit de Bayonne, Aramis, libre et hors de péril.
Tenez, fit le roi, en tirant de sa cassette, placée sur un meuble voisin du siège où D'Artagnan était appuyé, une lettre copiée exactement sur celle d'Aramis. Voici la même lettre que Colbert m'a fait passer 8 heures avant que vous receviez la vôtre. Je suis bien servi, j'espère.
Oui, sire, murmura le mousquetaire, vous étiez le seul homme dont la fortune fut capable de dominer la fortune et la force de mes deux amis. Vous avez usé, sire, mais vous n'abuserez point, n'est-ce pas ? »
D'Artagnan, dit le roi avec un sourire plein de bienveillance, « je pourrais faire enlever M. d'Herblay sur les terres du roi d'Espagne et me le faire amener ici vivant pour en faire justice. »
D'Artagnan, croyez-le bien, je ne céderai pas à ce premier mouvement bien naturel. Il est libre, qu'il continue d'être libre.
Oh, sire, vous ne resterez pas toujours aussi clément, aussi noble, aussi généreux que vous venez de vous le montrer à mon égard et à celui de M. d'Herblay. Vous trouverez auprès de vous des conseillers qui vous guériront de cette faiblesse.
Non, d'Artagnan, vous vous trompez quand vous accusez mon conseil de vouloir me pousser à la rigueur. Le conseil de ménager M. d'Herblay vient de Colbert lui-même.
Ah, sire, fit d'Artagnan stupéfait.
Quant à vous, continua le roi avec une bonté peu ordinaire, j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer, mais vous les saurez, mon cher capitaine, du moment où j'aurai terminé mes comptes. J'ai dit que je voulais faire et que je ferai votre fortune. Ce mot va devenir une réalité.
Merci mille fois, sire. Je puis attendre, moi. Je vous en prie, pendant que je vais et puis prendre patience, que votre majesté daigne s'occuper de ces pauvres gens qui, depuis longtemps, assiègent votre antichambre et viennent humblement déposer une supplique aux pieds du roi.
Qui cela ?
Des ennemis de votre majesté.
Le roi leva la tête.
Des amis de M. Fouquet, ajouta d'Artagnan.
Leur nom.
M. Gourville, M. Pélisson et un poète, M. Jean de La Fontaine.
Le roi s'arrêta un moment pour réfléchir.
Que veulent-ils ?
Je ne sais.
Comment sont-ils ?
En deuil.
Que disent-ils ?
Rien.
Que font-ils ?
Ils pleurent.
Qu'ils entrent, dit le roi en fronçant le sourcil.
D'Artagnan tourna rapidement sur lui-même, leva la tapisserie qui fermait l'entrée de la chambre royale et cria dans la salle voisine.
« Introduisez !»
Bientôt parurent à la porte du cabinet, où se tenaient le roi et son capitaine, les trois hommes que d'Artagnan avait nommés. Sur leur passage régnait un profond silence. Les courtisans, à l'approche des amis du malheureux surintendant des finances, les courtisans, disons-nous, reculés comme pour n'être pas gâtés par la contagion de la disgrâce et de l'infortune. D'Artagnan, d'un pas rapide, vint lui-même prendre par la main ces malheureux qui hésitaient et tremblaient à la porte du cabinet royal. Il les amena devant le fauteuil du roi, qui, réfugié dans l'embrasure d'une fenêtre, attendait le moment de la présentation et se préparait à faire aux suppliants un accueil rigoureusement diplomatique. Le premier des amis de Fouquet qui s'avança fut Pélisson. Il ne pleurait plus, mais ses larmes n'avaient uniquement tari que pour que le roi pût mieux entendre sa voix et sa prière. Gourville se mordait les lèvres pour arrêter ses pleurs par respect du roi. La Fontaine ensevelissait son visage dans son mouchoir, et l'on n'eût pas dit qu'il vivait, sans le mouvement convulsif de ses épaules soulevées par ses sanglots. Le roi avait gardé toute sa dignité. Son visage était impassible. Il avait même conservé le froncement de sourcils qui avait paru quand d'Artagnan lui avait annoncé ses ennemis. Il fit un geste qui signifiait « parler » et il demeura debout, couvant d'un regard profond ces trois hommes désespérés. Pélisson se courba jusqu'à terre et La Fontaine s'agenouilla comme on fait dans les églises. Cet obstiné silence, troublé seulement par des soupirs et des gémissements si douloureux, commençait à émouvoir chez le roi, non pas la compassion, mais l'impatience. « Monsieur Pélisson, dit-il d'une voix brève et sèche, « Monsieur Gourville et vous, monsieur... » Et il ne nomma pas La Fontaine.
« Je verrai avec un sensible déplaisir que vous vinssiez me prier
pour un des plus grands criminels que doivent punir ma justice. Un roi ne se laisse attendrir que par les larmes ou par les remords. Larmes de l'innocence, remords des coupables. Je ne croirai ni aux remords de M. Fouquet, ni aux larmes de ses amis, parce que l'un est gâté jusqu'au cœur et que les autres doivent redouter de me venir offenser chez moi. C'est pourquoi M. Pélisson, M. Gourville et vous, monsieur, je vous prie de ne rien dire qui ne témoigne hautement du respect que vous avez pour ma volonté. « Sire, répondit Pélisson, tremblant à ces terribles paroles, nous ne sommes rien venus dire à votre majesté qui ne soit l'expression la plus profonde du plus sincère respect et du plus sincère amour qui sont dus au roi par tous ses sujets. La justice de votre majesté est redoutable. Chacun doit se courber sous les arrêts qu'elle prononce. Nous nous inclinons respectueusement devant elle. Loin de nous la pensée de venir défendre celui qui a eu le malheur d'offenser votre majesté. Celui qui a encouru votre disgrâce peut être un ami pour nous, mais c'est un ennemi de l'État. Nous l'abandonnerons en pleurant à la sévérité du roi. » D'ailleurs, interrompit le roi, calmé par cette voix suppliante et par ces persuasives paroles, mon parlement jugera. Je ne frappe pas sans avoir pesé le crime. Ma justice n'a pas l'épée sans avoir eu les balances. Aussi avons-nous toute confiance dans cette impartialité du roi et pouvons-nous espérer de faire entendre nos faibles voix avec l'assentiment de votre majesté quand l'heure de défendre un ami accusé aura sonné pour nous. Alors, messieurs, que demandez-vous ? Dit le roi de son air imposant. Sire, dit Pélisson, l'accusé laisse une femme et une famille. Le peu de bien qu'il avait suffit à peine à payer ses dettes, et Madame Fouquet, depuis la captivité de son mari, est abandonnée par tout le monde. La main de votre majesté frappe à l'égal de la main de Dieu. Quand le Seigneur envoie la plaie de la lèpre ou de la peste à une famille, chacun fuit et s'éloigne de la demeure du lépreux ou du pestiféré. Quelquefois, mais bien rarement, un médecin généreux ose seul approcher du seuil maudit, le franchit avec courage et expose sa vie pour combattre la mort. Il est la dernière ressource du mourant. Il est l'instrument de la miséricorde céleste. Sire, nous vous supplions, à mains jointes, à deux genoux, comme on supplie la divinité. Madame Fouquet n'a plus d'amis, plus de soutien. Elle pleure dans sa maison, pauvre et déserte, abandonnée par tous ceux qui ont assiégé la porte au moment de la faveur. Elle n'a plus de crédit, elle n'a plus d'espoir. Au moins, le malheureux sur qui s'appesantit votre colère reçoit de vous, tout coupable qu'il est, le pain que mouillent chaque jour ses larmes. Aussi affligée, plus dénuée que son époux, Madame Fouquet, celle qui eut l'honneur de recevoir votre majesté à sa table, Madame Fouquet, l'épouse de l'ancien surintendant des finances de votre majesté, Madame Fouquet n'a plus de pain. Ici, le silence mortel qui enchaînait le souffle des deux amis de Pélisson fut rompu par l'éclat des sanglots, et d'Artagnan, dont la poitrine se brisait en écoutant cette humble prière, tourna sur lui-même vers l'angle du cabinet pour mordre en liberté sa moustache et comprimer ses soupirs. Le roi avait conservé son œil sec, son visage sévère. Mais la rougeur était montée à ses joues et l'assurance de ses regards diminuait visiblement. « Que souhaitez-vous ? » dit-il d'une voix émue. « Nous venons demander humblement à votre majesté, répliqua Pélisson, que l'émotion gagnait peu à peu, de nous permettre, sans encourir sa disgrâce, de prêter à Madame Fouquet 2000 pistoles, recueillies parmi tous les anciens amis de son mari, pour que la veuve ne manque pas des choses les plus nécessaires à la vie. » À ce mot de veuve, prononcé par Pélisson, quand Fouquet vivait encore, le roi pâlit extrêmement. Sa fierté tomba, la pitié lui vint du cœur aux lèvres. Il laissa tomber un regard attendri sur tous ces gens qui sanglotaient à ses pieds. « À Dieu ne plaise, répondit-il, que je confonde l'innocent avec le coupable. Cela me connaisse mal qui doute de ma miséricorde envers les faibles. Je ne frapperai jamais que les arrogants. Faites, messieurs, faites tout ce que votre cœur vous conseillera pour soulager la douleur de Madame Fouquet. Allez, messieurs, allez !» Les trois hommes se relevèrent silencieux, l'œil aride. Les larmes s'étaient taries au contact brûlant de leurs joues et de leurs paupières. Ils n'eurent pas la force d'adresser un remerciement au roi, lequel d'ailleurs coupa court à leur révérence solennelle en se retranchant vivement derrière son fauteuil. D'Artagnan demeura seul avec le roi. « Bien, dit-il en s'approchant du jeune prince et qu'il interrogeait du regard. Bien, mon maître. Si vous n'aviez pas la devise qui pare votre soleil, je vous en conseillerais une, quitte à la faire traduire en latin par M. Conrart. Douze aux petits, rude aux forts. » Le roi sourit et passa dans la salle voisine après avoir dit à D'Artagnan « Je vous donne le congé dont vous devez avoir besoin pour mettre en ordre les affaires de feu M. du Vallon, votre ami. »